Histoire interrompue. Bien que les étoiles fussent déjà allumées dans le ciel voilé d'une buée rougeâtre, la chaleur s'épandait lourde et morose. L'air était imprégné d'impalpable poussière. Les feuilles brûlées des platanes retombaient comme mortes dans la papillotante lueur du gaz. Les terrasses des cafés débordaient sur le trottoir comme des corbeilles trop pleines. Des garçons ne savaient à qui répondre et couraient de table en table, pareils à des pantins épileptiques. Toute la bande habituelle, Montesquieu, Jacques Loris, Saint-Hulien, Sargement et le grand Toto, s'étaient attablés, sans savoir pourquoi, chez Tortoni, et se renvoyaient comme des volants de raquettes, des sottises à dormir debout. « Sommes-nous bêtes ce soir ?» fit Jacques Loris en buvant son cinquième verre de cumel. « La vie est pas drôle !» s'écria un autre. « Qu'on serait bien au diable vos verres à 500 lieues de Paris !» murmura le grand Toto. « Tu trouves ?» dit Sargement, qui ne dépassait jamais la Madeleine. Toto ne sembla ne pas avoir entendu, et il continua comme s'il eût récité un monologue. « Oh, sauver n'importe où, au bord de la mer !» Aller retremper ses muscles rouillés, sa cervelle malade dans l'air robuste et salubre qui vient du large, ne plus barbouiller de copies stupides, ne plus entendre vos calembredaines qui valent pas deux sous la ligne. Boire du cidre nouveau sur une table goudronnée d'auberge et se coucher chaque soir avec les poules dans un grand lit de paysan. Oh, quel rêve! Oh, cela vous fait rire! Il s'animait peu à peu, fouetté par les gouailleuses moqueries des camarades. « Êtes-vous donc assez anémique, assez vidé, pour préférer encore à tout cela notre existence monotone de chaque jour, nos fausses souleries, nos joies bêtes et banales, et cette course fiévreuse aux gros sous qui vous flanque un matin les quatre fers en l'air dans un lit de la maison du bois ?»« Bravo !» cria Montesquieu. Toto parle d'or, et pour ma part, je ne sais rien de plus attirant qu'une lente et paresseuse flânerie le long des grèves, surtout 5 jours. Les après-midi mornes où les voiles n'éclaboussent pas de taches blanches à l'horizon, où les goélands effarés tourbillonnent autour des falaises, où les lames grises comme une coulée de plomb crânent des parquets d'écume salée qui vous fouettent en plein visage. Parole d'honneur, on se sent moins stupide dans un tel décor. On y oublie la comédie humaine, les manèfes et les barreaux hulots. On éprouve je ne sais quelle jouissance brève d'apothéose, comme si on écoutait du Shakespeare. Et il semble qu'on soit délivré des angoisses anciennes, qu'on ait jeté par-dessus bord le lourd boulet que nous sommes condamnés à traîner, mon oncle à l'œil, dans la sale galère parisienne. N'est-ce pas, Toto ? Toto rêvassait silencieusement et suivait la fumée bleue de son cigare. « Eh, parbleu, reprit Montesquieu, cela me rappelle une bizarre aventure qui m'advint l'an passé. C'était en juillet à Saint-Léonville, il pleuvait comme il pleut parfois sur la côte normande. Mer démontée, ciel louche, qu'éclairait à peine de-ci de-là un rapide et pâle échappé de soleil. J'allais commencer ma promenade accoutumée sur la jetée, malgré les averses, lorsqu'au milieu, parmi l'humide vapeur des embruns, j'aperçus, devinez qui, cette mignarde Jeanne Lange, la colombine adorable que Jacquet peignit dans le menuet. Mais que diable cherchait-elle là, frileusement emmitouflée dans un fourreau anglais? Un capuchon doublé de satin rouge flottait sur ses épaules. Ses cheveux lui couvraient les yeux d'une frange d'or. D'une main, elle serrait son parapluie détraqué, et de l'autre, elle retenait ses jupes qui claquaient comme des drapeaux. On cherche souvent bien loin des sujets de tableau, sans en dénicher de pareil, car elle était gentille à croquer dans cette pose embarrassée, avec ses joues fardées de rose par le vent, et ses petits pieds finement chaussés qui trempaient dans les flaques d'eau. « Bonjour, madame » m'écriai-je de loin en la saluant cérémonieusement. Elle me regarda un instant, hésita, puis éclata de rire. « Tiens, c'est vous. Ah, je vous croyais en Chine, » répondit-elle. « Vous venez peut-être opérer mon sauvetage ?»« Ah, si vous le permettez. »« Je crois bien que je le permets. » »« Allez, votre bras et sauvons-nous bien vite chez moi. » « Je grelotte aussi lamentablement qu'à notre fameuse partie de campagne. Vous vous souvenez bien ?»« Si je me souviens, hélas !»« Si je m'en souvenais de cette partie absurde qui nous avait désenlacés brutalement, qui avait interrompu à la première page une histoire d'amour exquise, parfumée, une de ces histoires qui ne coûtent pas les rues, je vous assure !» Nous nous étions parlé pour la première fois à ce fameux bal naturaliste de l'Assommoir où l'on s'amuse à tant. Vous voyez que cela ne date pas d'hier. Elle était venue en curieuse pour voir Zola et peut-être aussi pour surveiller le gros Machin qu'elle adorait alors. Machin eut-il des torts ? Le champagne me brûla-t-il les lèvres de ses phrases délirantes qui détraque les femmes mieux qu'un baiser? Saura-t-on jamais comment la petite bête s'éveille au cœur de nos bien-aimés et pourquoi elle s'abandonne extasiée entre nos bras? Cherchez le bout de l'énigme si cela vous délecte. Mais que j'ai vu pour ceci ou pour cela, Jeanne Lange ne revint pas de l'Élysée-Montmartre dans le coupé de Machin, et ce fut divin, après ses cancans échevelés, ce tumulte de foule grise et de folie, de se trouver deux, d'être seul devant un feu clair qui attiédissait l'atmosphère, de respirer les odeurs musquées des rosetés qui se fanaient sur la cheminée, au lieu des puanteurs fades de bal public, de champagne répandu dont mon habit était encore imprégné. Quelle fin de nuit charmante! Très tard, ou était-il 9 heures ou midi, je ne saurais le dire, Jeanne se traîna vers la fenêtre et entr'ouvrit ses rideaux de peluche rose. Le ciel d'un bleu attendri rayonnait. Les premières hirondelles rasaient les cheminées d'un essor joyeux. Les marronniers apparaissaient piquetés de bourgeons verts. Et le soleil flambait si gaiement au travers des vitres qu'on eût dit d'une clarté de cierge allumée pour fêter la Saint-Printemps. Les yeux de Jeanne brillèrent. Ses narines palpitèrent comme si elles eussent subodoré le parfum des prairies en fleurs, de la campagne renaissante, des bois reverdis. Les ressouvenirs d'Anières et de Bougival, les bons souvenirs de noces, de déjeuner aux guinguettes, de voyage en canot au fil de l'eau, lui bourdonnait aux oreilles et lui sonnait un carillon de revenus. « Mais partons à la campagne, veux-tu » s'exclama-t-elle brusquement. « J'allais te le demander, » répondis-je. La toilette ne fut pas longue. Elle s'enveloppa dans ses fourrures et en route pour Bougival, ravie de notre idée et nous bécotant plus que jamais. Cela ne dura pas longtemps. Nous avions antidaté la Saint-Printemps. Une bise piquante flagellait les branches nues. L'arbre avait des tons roux de paillasson usé. La campagne était funèbre. Pas la moindre fleur d'aubépine au buisson, pas le moindre gazouillis d'oiseau chanta dans les arbres. Nous claquions des dents au bord de la rivière. Le déjeuner servit de bouquet. Le restaurant sentait la peinture neuve, les garçons nous dévisageaient d'un regard narquois, ainsi que des bêtes curieuses. Le menu était épouvantable, et la bise entrait comme chez elle par les fenêtres. J'avais relevé mon collet, elle avait gardé ses fourrures. Nous grelottions désespérément, elle ne disait plus une parole, ne mangeait rien, et tambourinait une marche fiévreuse sur la nappe. Elle n'attendit même pas le dessert. Oh, « Retournons à Paris !» commanda-t-elle. Les billets d'aller et retour se ressemblent, mais les voyages ne se ressemblent pas. J'eus beau remuer les cendres du feu, souffler sur les tisons qui s'éteignent, redire les serments de leur passé, La petite bête ne recommença plus sa musique, et les lèvres de Jeanne restèrent obstinément closes aux tendresses. « Tu ne m'aimes donc plus ?» implorai-je à genoux. « Bon, j'ai trop froid pour vous répondre, » interrompit-elle inexorablement. « Nous reparlerons de cela un jour, en été. » Et voilà, conclut Montesquour, ce qui prouve une fois de plus que les amoureux sont protégés par un dieu tutélaire, puisque, sans le vouloir, sans le savoir, nous nous sommes retrouvés un jour d'été pour continuer la lecture interrompue de notre bienheureuse histoire.